Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Vous vous sentiez plus historien ou géographe, ou la question ne s'est jamais posée pour vous ?
Moi, j'étais géographe. Il n'y avait qu'une agrégation à ce moment-là, histoire et géographie. Et j'ai choisi l'agrégation à cause de la géographie. C'était un domaine surtout tout à fait jeune. C'est ça, au fond, avec Vidal de la Blache, la géographie. En fait.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans la toute neuve revue intitulée Zadig, qui se donne la mission de raconter, je cite, « la France à partir de toutes les Frances », Mona Ozouf vient d'offrir à Eric Fotorino un très bel entretien. Elle y évoque l'enchantement avec lequel elle a rêvé, dans son école bretonne des années 1930, devant les grandes cartes géographiques accrochées au mur de la classe. Un magnifique remède, nous dit-elle, aux longues plages d'ennui. Ces cartes colorées, qui ont contribué à forger dans les jeunes esprits une représentation spécifique de leur pays, était alors signé pour la plupart du nom de Vidal de la Blache. Nous allons consacrer notre émission à ce maître de l'école géographique française avant la Grande Guerre, parce qu'il fut aussi l'auteur d'un ouvrage majeur, paru en 1903, et qui eut une grande influence sur plusieurs générations. Ce livre, c'est le tableau géographique de la France. Il est sous-tendu par une question qui n'a pas cessé de nous préoccuper jusqu'aujourd'hui, de nous tarauder parfois, et qui est celle de notre originalité collective, de notre identité nationale. Vidal de la Blache s'interroge, il s'interroge déjà, tout au long de son ouvrage, sur ce qui a pu constituer cette spécificité sur le long terme, cette unité à partir d'éléments très disparates, à la fois du côté des données spatiales, matérielles, et du côté des représentations, des sentiments partagés ou dissonants. En 115 ans, notre pays a changé profondément, bien sûr, et pourtant il est loisible de montrer qu'entre l'époque de Vidal de la Blache et la nôtre, il existe des permanences dans l'idée que les Français se font d'eux-mêmes et de leur territoire, de montrer aussi que les changements ne sont pas moins instructifs, c'est notre credo à ce micro, que les fixités elles-mêmes. J'ai convié, pour ce faire, Jean-Louis Tissier, qui est professeur émérite à la Sorbonne, Paris 1, et qui, géographe éminent, s'est intéressé de longue main au passé de sa discipline pour en éclairer l'actualité. Et pour commencer, eh bien, un extrait d'une interview que vous avez faite jadis, vous nous direz quand, dans les années 70, avec Julien Gracq, le grand Julien Gracq, qui, sous le nom de Louis Poirier, a enseigné très longtemps la géographie.
Il ne faut jamais oublier que c'est un livre qui est une introduction à un travail historique. C'est le premier tome de l'histoire de France de la vie, ce qu'on oublie quelquefois, ce qui tout de même a, d'une certaine manière, aiguillé le travail Vidal de la Blache. Et puis, il y a une préface et une introduction assez courte qui est très suggestive, où il parle tout de suite, il rappelle Michelet. Michelet dit « la France est une personne », et lui-même va pas si loin, c'est pas très, très géographique en esprit, mais il dit « la France pourrait bien être un être géographique », et il se demande pourquoi. Je trouve que le rapprochement est très suggestif. Au fond, Michelet en histoire et Vidal de la Blache en géographie se placent à peu près au même moment du développement de la science. L'histoire sort de la chronique pour devenir science, c'est à peu près au temps de Michelet, enfin l'époque romantique. Et Vidal de la Blache est aussi à l'origine de la science géographique, enfin avant lui, pas grand-chose, au moins sur le plan de la production française. Les choses les plus frappantes, souvent dans Vidal Lablache, ce sont les passages d'une région à l'autre, les transitions. Où il marque, ça, dans un paragraphe, par petites touches climatologiques ou bien qui concernent la nature du sol, la végétation, le passage d'une région à une autre. Hein. Au fond, le mot d'ordre du livre, c'est graduellement. Comme ça, ça passe par transition, c'est une sorte de fondu enchaîné, enfin continuel. C'est remarquable parce que ça donne une impression d'unité. Ces coutures qui n'existent pas souvent parce que la géographie régionale a tendance à compartimenter. Il y a des régions frontières comme ça. Alors, à côté, c'est le domaine du voisin. Mais alors là, il y a une sorte de ce sens de l'organisme, enfin vraiment des liaisons en tous sens, qui est tout à fait remarquable chez lui. Je trouve ça très frappant. Il y a un sens de l'exposition aussi, maîtrise de la langue qui est étonnante. Alors c'est un très beau livre, c'est un livre vivant. Et puis je dirais en même temps, c'est une œuvre d'art. Au fond, ce qui fait vivre une œuvre d'art, c'est la multitude des relations dans tous les sens. C'est ce que disait Valéry. Et là, il traite exactement la France de fait dans ce sens. Oui. C'est un livre extrêmement suggestif à cause de ça. Et c'est même un livre fondamental. C'est ce que j'appelle un livre formateur. Oui. Je dirais encore un mot, d'ailleurs, au sujet de ce livre de Vidal Lablache, et par où ce livre me touche beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas une insensibilité en face des paysages géographiques qui se laissent toucher. Enfin, il y a une certaine réaction affective en face des paysages. Et moi, je ressens les paysages d'une manière assez nette dans ce sens. Ça m'est sympathique. Enfin, il n'y a pas l'impassibilité de la science, n'est pas partout observé, je trouve que ça vaut plutôt mieux.
Jean-Louis Tissier, bonjour.
Bonjour, Jean-Marie Jeannet.
Je vous ai ramené 41 ans en arrière, puisque vous êtes allé tout jeune, avec une audace admirable et un micro aussi, vous êtes allé interviewer Julien Gracq à Saint-Cloud. Racontez-nous ça.
Bien, c'est une rencontre à la fois que je craignais et en fait qui s'est très bien passée. J'étais rentré à Saint-Cloud plutôt littéraire et puis j'avais trouvé de l'intérêt à la géographie, un peu comme Gracq d'ailleurs rentrant à Ulm et un peu comme Vidal rentrant à Ulm.
Je vous félicite pour ce compagnonnage.
Voilà, bon c'est tout. Et peu à peu, j'ai continué à lire du Gracq et au fur et à mesure de ma formation de géographe, je dis mais il y a quelque chose derrière. Et un jour, j'en parle à mon patron, Philippe Pinchemel, qui me dit « Ben oui, le Poirier, mais va le voir, ça va être très intéressant. »
Et donc, du coup, nous avons dans l'œuvre complète de Julien Gracq dans la Pléiade, nous avons cet entretien qui a été reproduit, entretien avec Jean-Louis Tissier, 1978.
Oui. Et Gracq a souhaité que cet entretien figure dans la Pléiade, pour marquer son lien à la géographie, qui n'est pas un lien simplement circonstanciel, mais qui est un lien, on pourrait dire aussi, culturel, au sens fort. Et dans cet entretien, c'est aussi une sorte d'entrée dans cette géographie classique qu'il a aimée et qu'il a formée et qu'il a continué à entretenir par lui-même ses voyages en France.
Dans ce texte, il évoque plusieurs aspects de l'œuvre de Vidal de Lablache, auquel nous avons vu qu'il rend un hommage fervent. Mmh. Plusieurs aspects qui vont parcourir, je crois, notre conversation. En particulier, d'abord, l'idée que c'est une œuvre d'art. Le style est très important. Les géographes, comme les historiens, peuvent écrire bien.
Oui.
Et doivent écrire bien.
Oui, oui, oui. Disons, dans la plupart des textes de Vidal, c'est tenu du point de vue du niveau de langage, dans les descriptions, mais pas simplement dans les descriptions. Il y a très souvent des métaphores qui ont une valeur explicative et qui sont subtiles, qu'il emprunte au monde du vivant ou quelquefois au monde de la physique.
Et un autre aspect intéressant de cette citation, c'est l'idée que Vidal de Lablache nous propose une vision en fondu enchaîné, comme dit. Oui. Gracq, c'était pas une expression que Vidal de Lablache aurait empruntée, mais le refus des études séparées, compartimentées, c'est très important, non? Le passage.
Le passage, oui, c'est-à-dire, c'est d'abord, ça a été aussi sa pratique de la France, qui est une pratique dans la mobilité. L'enjeu, c'est de montrer que ce territoire est non seulement une mosaïque, mais quelque chose de plus qu'une mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des liaisons, soit locales, soit régionales, soit générales, comme il dit. Eh bien, il utilise très souvent le moyen du voyage pour, disons, présenter les différentes unités qu'il découvre et le passage d'une unité à une autre. Ça se voit très bien, par exemple, quand il parle du sud-ouest, la descente vers le sud-ouest.
C'est la fin d'une nomenclature sèche, pourrait-on dire.
Voilà. Il y a sans doute des modèles d'écriture qui sont derrière Vidal, mais c'est pas facile à situer. Et bon, j'en parle là, puisqu'il vient de décéder Jean-Pierre Richard. Jean-Pierre Richard a fait un très beau texte sur Fromentin. Paysage de Fromentin. Et quand j'ai lu ce texte de Fromentin, je me demande si c'est pas l'un des modèles d'écriture de Vidal, c'est-à-dire de la nuance, du passage, des couleurs, et un peu des aquarelles, comme faisait Fromentin.
Rappelez-nous l'œuvre majeure de Fromentin. Tout le monde n'a plus Lagarde et Dominique. Michard à portée de main, oui.
C'est
Dominique.
Et mais c'est aussi Fromentin qui était le peintre aussi. Et donc, je pense que quand on cherche des modèles d'écriture chez Vidal, il y a peut-être quelque chose de...
Il y a aussi Michelet qui passe dans ce texte. Alors, il faut rappeler que Michelet lui-même, vous le connaissez bien, Jean-Louis Tissier, avait fait un tableau de la France qu'il avait installé en tête de son histoire de France. Et où il expliquait que la France était une personne. Oui. Et il disait aussi que l'histoire avait effacé la géographie. Là, c'était moins aimable.
Mais Michelet, bon, c'est quand même c'est un grand texte, ce tableau.
Très différent.
Mais c'est une composition, son tableau de la France, qui n'est pas la composition de type vidalienne. C'est une sorte de grand parcours de la France où les liaisons des régions en haut. Il a plutôt tendance à bien caractériser les régions plutôt qu'à montrer comment il y a un assemblage, une sorte de fondu enchaîné d'une région à une autre. Mais Michelet aussi a voyagé en France et dans son journal, il y a des très beaux passages sur la Loire, par exemple.
Vidal a été un de ceux qui a le plus voyagé. C'est un élément important. Nous allons évoquer un peu son histoire. Alors, je vais m'amuser à vous faire entendre Jean-Louis Tissier, un extrait fameux du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui remonte à 1943, comme on sait. C'est un enregistrement de 72 avec Jean-Louis Trintignant, le narrateur, et Éric Damin, qui joue le Petit Prince. Il surgit un géographe qui est peut-être de l'ancienne école, d'avant Vidal de la Blache. Venez nous le dire.
La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres.
Tiens, voilà un explorateur! D'où viens-tu?
Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici?
Je suis géographe.
Qu'est-ce qu'un géographe?
C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts.
Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans?
Je ne puis pas le savoir.
Ah? Et des montagnes?
Je ne puis pas le savoir.
Et des villes? Et des fleuves? Et des déserts?
Je ne puis pas le savoir non plus.
Mais vous êtes géographe.
C'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des déserts, des mers et des océans. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur.
Pourquoi ça?
Et parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop.
Pourquoi ça?
Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule.
Que pensez-vous, Jean-Louis Tissier, de votre collègue géographe vu par Saint-Exupéry?
Bien, c'est une image du géographe de cabinet. C'est-à-dire le géographe qui, disons, jusqu'au milieu du 19e siècle, se chargeait plutôt de compiler des récits de voyage, des récits d'exploration, dans son cabinet, de remplir des cartes, éventuellement en fonction des informations qui lui étaient données, mais qui, en quelque sorte, ne sortait pas, ou sortait très peu, de son cabinet. Le premier géographe qui est qui est sorti, c'est Élisée Reclus, qui a beaucoup voyagé.
Un anarchiste, la famille des Reclus.
Anarchiste, personnage très mais intéressant. Aussi très grand géographe qui a connu l'Amérique, qui a connu en partie l'Afrique du Nord, etc., qui a beaucoup voyagé.
15 ans de plus que notre Vidal.
De plus que Vidal, oui. C'est pas la même génération, c'est pas non plus la même formation au sens... intellectuel du terme.
Alors en fait, ce qu'il faut marquer, Jean-Louis Tissier, c'est que dans l'histoire de la géographie française, qui était si en retard par rapport à la géographie allemande ou la géographie britannique, il y a un avant et après Vidal de Lablache. Il fonde une école française de géographie, avec des personnages éminents dont on connaît encore bien les noms, Emmanuel de Martonne, son gendre, avec également... de Mangeon, Albert de Mangeon, Raoul Blanchard, du côté des Alpes. C'est vraiment intellectuellement... un personnage qui a beaucoup compté. Alors, quelle est l'histoire de... Il faut camper le personnage que à quoi nous consacrons cette émission, Vidal de Lablache. Il faut qu'en quelques phrases, vous nous racontiez d'où il vient. Il est assez représentatif, finalement, de l'émergence d'un certain nombre de savants sous la Troisième République. Oui. L'ascenseur social, comme on dirait aujourd'hui, a fonctionné.
L'ascenseur social, son père est un professeur de lettres rhétoriques. Il couve, on pourrait dire, il coach, on dirait maintenant, son fils qui a des dispositions pour être un bon élève.
Le père a mis 11 tentatives pour être agrégé, il n'a été qu'à 44 ans, donc il veut que son fils fasse mieux et il y parvient.
Il y parvient très rapidement. Donc,
il est premier à l'école normale, il est...
Premier à l'agrégation, Vidal rentre à l'école normale quasiment avec une dispense d'âge. Il n'a pas les 18 ans révolus.
Un brillant ensuite, sujet. Voilà, un brillant donc, sujet.
il rentre avec une dispense d'âge en 63. Il fait sa scolarité en 3 ans. Il est premier à la grecque en 66. Et il part à Athènes avec un sujet, disons, de géographie, d'histoire antique.
École française d'Athènes.
Voilà, à l'école française d'Athènes en 67. Passe sur 67, 68 et 69 à l'école française d'Athènes pour préparer sa thèse sur Hérodaticus, qui est un rhéteur du deuxième siècle de notre ère et aussi un évergète.
C'est-à-dire un mécène.
Un mécène, et en fait, il fait une thèse qu'il va rédiger quasiment pendant la Commune à Paris, après son retour. C'est un bon produit de l'école qui n'était pas encore républicaine, puisque c'était l'école impériale. Il est reçu sous le Second Empire. Mais ensuite, il va devenir une figure de l'école républicaine.
Alors, comment passe-t-il de l'histoire à la géographie et comment s'impose-t-il en quelques années comme un sujet brillant qui va modifier finalement cette discipline? La France était en retard par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre.
La charnière du début des années 70 est très importante. À la fois, Vidal, on dit qu'il a commencé à lire les géographes allemands à Athènes, ou au retour d'Athènes, notamment Ritter. Karl Ritter, qui était le grand géographe de l'Allemagne avec Alexandre de Humboldt. Mais c'est plutôt Ritter qui l'aurait influencé. Bon, c'est très difficile à prouver que la bifurcation de l'histoire vers la géographie se passe à ce moment-là. En revanche, ce qui est important, c'est que en 71 s'ouvre après la défaite une opportunité pour la géographie à la fois comme discipline et une opportunité aussi comme poste, c'est-à-dire à Nancy où est replié en quelque sorte une partie de l'université de Strasbourg. Le doyen veut un enseignement de la géographie qui soit un enseignement nouveau.
Influencé par l'Allemagne, c'est un des aspects de ce que Claude Dijon a appelé la crise allemande de la pensée française. C'est-à-dire que le vaincu va se tourner vers l'Allemagne pour comprendre pourquoi, dans le domaine intellectuel comme dans d'autres, les Germains ont battu les Gaulois.
Voilà. Et en fait, Vidal est immédiatement, dès qu'il est nommé maître de conférence en 72
à Nancy.
À Nancy, il va entamer des voyages en Allemagne en 74, en 75, etc. très régulièrement, à la fois pour rencontrer des collègues qui enseignent en Allemagne, notamment Peskel, Richthofen, etc. Il va à Leipzig, il va à Berlin, pour aussi recueillir de la documentation, c'est-à-dire des ouvrages. Il fait de la bibliographie dans ses carnets, on le voit très bien. Des listes de cartes aussi.
Alors c'est là qu'il a sa formule fameuse, avec les livres, on ne fait que de la géographie médiocre. Ça c'est pour le géographe du Petit Prince. Avec les livres, on ne fait que de la géographie médiocre. Avec les cartes, on en fait de la meilleure. Ça c'est pour la classe de Mona Ouzouf que j'évoquais tout à l'heure et de beaucoup d'autres. On ne la fait très bonne que sur le terrain.
Que sur le terrain, oui. C'est-à-dire que les trois, chez Vidal, les trois se combinent. On voit très bien que dans son emploi du temps, dès les années 70 et jusqu'à sa mort, jusqu'à 1914, parce qu'après, à 1914, les voyages vont un peu s'arrêter du fait des circonstances, il a des programmes de voyage en été et au printemps.
Et d'ailleurs, il les raconte dans ses carnets que vous avez, Jean-Louis Tissier, d'une certaine façon exhumés, qui sont maintenant disponibles de façon numérique en ligne, ces carnets de voyage qui sont très intéressants.
Oui, c'est une source qui était une source un peu oubliée, qui a été retrouvée à la fin des années 80, et qui maintenant est accessible. Ils sont numérisés sur le site de la bibliothèque de la Sorbonne, le site Nubis, sur les pas d'un géographe, et on peut voyager en quelque sorte avec Vidal sur à peu près 40 ans. Il y a 33 carnets qui sont très intéressants sur son rapport au terrain, sa sensibilité, ses projets. Parce que ces carnets sont un peu orientés par des projets d'écriture, de publication, et sur aussi ses relations, on pourrait dire, universitaires, avec ses collègues, ses rencontres.
Il fait une carrière assez classique, brillante, à l'école normale, comme un des professeurs de l'école, et puis ensuite à la Sorbonne. Et jusqu'à la guerre de 14, il a un rayonnement croissant, notamment avec la publication en 1903 du tableau géographique de la France que lui demande Lavis, qui est un peu plus âgé que lui, qui est le maître, lui, de l'histoire, d'une histoire qui est portée par ce qu'on a pu appeler une ardente pensée nationale.
Oui.
C'est un peu moins vrai pour Vidal.
Oui, il n'a pas, disons, c'est un patriote, mais c'est pas vraiment un nationaliste au sens de l'époque.
Il est un maître très efficace. On a un témoignage frappant, c'est celui de Romain Rolland, quand il est élève à l'école normale. J'aime beaucoup son journal qui a été publié dans les années 50 et qui s'appelle Le cloître de la rue d'Ulm. Mmh. Et il évoque la personnalité, le rayonnement admirable de Vidal de Lablache. Il faut que nous le montrions tout de même, cet homme, puisque nous passons une heure avec lui. Oui. Écoutez donc ce portrait que, au moment de sa mort, en a fait le vice-président de l'Académie des sciences morales, Henri Welchinger. Son visage austère frappait d'abord tous ceux qui l'approchaient. La tête froide, couverte d'une chevelure encore noire, les sourcils épais, les yeux bleus et fins, la bouche presque voilée par une barbe drue et où l'on voyait rarement glisser un sourire. Sont austères, ces pères de la science républicaine. La stature moyenne et robuste, soutenue par une vigoureuse ossature, ça c'est bien pour voyager, la démarche lente et mesurée. Sa voix faible et douce était cependant bien timbrée et avait parfois des accents pressants. On ne devinait pas en lui le professeur, mais plutôt une sorte de philosophe, grand observateur du monde physique et moral, attentif à ses mouvements et à ses lois. Vous le reconnaissez, votre Vidal de Lablache ?
Oui, on le voit, quand on le lit, et notamment quand on lit le tableau, mais d'autres ouvrages, on le voit, c'est un géographe qui est un géographe pas complètement positiviste. C'est aussi un géographe qui est méditatif, réflexif. Et ceci se marque dans ses analyses et aussi sa conception qu'il a de la géographie, qui est une géographie dans laquelle il voit essentiellement un jeu de connexion, de corrélation entre les faits de la nature et les faits sociaux. Et ces connexions et ces corrélations, évidemment, elles sont situées sur dans l'espace et sur la carte.
C'est fondamental, ça. Romain Rolland dit de lui, dans le cloître de la rue d'Ulm, la géographie chez lui devient un poème panthéique. Panthéique. Et pourtant, dans ses leçons, pas une phrase vague, pas une idée philosophique, des formules courtes et nettes, condensant avec intensité la vie individuelle de la Terre. C'est bien ça, c'est l'idée du regroupement et la circulation.
La circulation. La circulation, c'est quelque chose de très important, puisque c'est d'abord la circulation du géographe lui-même. C'est-à-dire, le géographe doit être mobile, il sort, et le géographe doit repérer et analyser tout ce qui met en rapport les lieux et les territoires, c'est-à-dire les flux de biens, de personnes. Et c'est quelqu'un qui a été... c'est un géographe qui a été, on pourrait dire, un fou de chemin de fer.
Alors nous allons parler de cela, mais auparavant il faut que nous entendions sa voix, si vous le permettez, Jean-Louis Tissier. Écoutons cet extrait du tableau, le tableau de la géographie de la France, dont je rappelle qu'il est paru en 1903. C'est une lecture de Philippe Moreau dans l'analyse spectrale de l'Occident de René Louis sur France Culture, le 11 mai 1968.
La France est placée de telle sorte, par rapport aux influences continentales et océaniques qui s'y rencontrent dans un équilibre instable, que de différents côtés, plantes et cultures ont voie libre pour se propager, pour profiter de toutes les occasions qui multiplient les variétés de relief et de sol. Le mélange du nord et du sud est plus marqué dans certaines contrées de transition comme la Bourgogne et la Touraine, qui représentent, pour étendre l'expression de Michelet, l'élément liant de la France. Mais on peut dire que ce mélange est la France même. L'impression générale est celle d'une moyenne dans laquelle les teintes, qui paraissent disparates, se fondent en une série de nuances graduées. Il en résulte la grande variété de produits auxquels le sol français se prête. Variété qui est une garantie pour l'habitant, le succès d'une culture pouvant dans la même année compenser l'échec d'une autre. Une contrée ne vit pas seulement de sa vie propre. Elle participe à une vie plus générale qui la pénètre. Lorsque se produisent de grandes révolutions économiques comme celles qu'ont déterminées les nouveaux moyens de transport, quels habitants du globe pourraient se flatter d'échapper à leurs conséquences? Nous croyons cependant que notre pays tient en réserve assez de ressources pour que de nouvelles forces entrent en jeu et lui permettent de jouer sa partie sur l'échiquier mondial indéfiniment agrandi, dans une concurrence de plus en plus nombreuse. Nous pensons aussi que les grands changements dont nous sommes témoins n'atteindront pas foncièrement ce qu'il y a d'essentiel dans notre tempérament. La robuste constitution rurale que donne à notre pays le sol et le climat est un fait cimenté par la nature et le temps. La terre, chez nous, reste la nourricière de ses enfants. Des révolutions économiques comme celles qui se déroulent de nos jours impriment une agitation extraordinaire à l'âme humaine. Mais ce trouble ne doit pas nous dérober le fond des choses. Lorsqu'un coup de vent a violemment agité la surface d'une eau claire, tout vacille et se mêle. Mais au bout d'un moment, l'image du fond se dessine de nouveau. L'étude attentive de ce qui est fixe et permanent dans les conditions géographiques de la France doit être ou devenir plus que jamais notre guide.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il faut signaler, Jean-Louis Tissier, que c'est le paragraphe final du tableau que nous avons entendu. Et cette phrase, l'étude attentive de ce qui est fixe et permanent dans les conditions géographiques de la France doit être ou doit devenir plus que jamais notre guide, a été fort discutée. Vu d'aujourd'hui, elle conduit à réfléchir sur permanence et changement.
Oui, permanence et changement. En fait, Vidal est le témoin, dans ces années de la fin du 19e et du début des 20e siècles, avant la guerre de 1914, des mutations. Mais ces mutations, ces révolutions économiques dont il parle, cette conscience de la mondialisation, il en parle là dans ce texte, eh bien c'est sur... Il les distingue, il les repère sur un fond qui est un fond... pas d'une France éternelle, mais d'une France qui reste une France disons, des invariants qui peuvent être les invariants physiques, l'opposition classique bassin parisien, massif central, les invariants qui sont les invariants, on peut dire, les grands fleuves, qui sont les lignes de vie, mais ces invariants, en quelque sorte, fixent des lieux, des sites, comme Lyon. Et mais sur ces lieux, eh bien, ces lieux peuvent devenir le point d'appui des changements. Alors, il est évident que dans cette phrase, il conclut plutôt sur quelque chose. La France ne bouge plus.
La terre nourricière, ça prépare un peu déjà l'idéologie de Vichy. On peut le dire. La terre ne ment pas. Est-ce que vu d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019. On peut continuer de mettre l'accent aussi sur les permanences, parce que les changements sont éclatants. En 1911, il faut savoir que les villes n'étaient en France que 44%. Il n'y avait que 44% des Français qui vivaient dans les villes, le reste à la campagne, alors que dès ce moment-là, 78% des Anglais et 60% des Allemands vivaient déjà dans des conurbations.
La France est en retard d'urbanisation. Dans la perspective du tableau, ça ouvre en quelque sorte à Vidal toute son analyse de ce qu'on appelle les pays, c'est-à-dire ces unités qui sont de petites unités à l'échelle locale ou infrarégionale. Et pour lui, c'est une sorte de trésor du territoire français, en quelque sorte, ces petites unités. Mais il les perçoit de manière moins comme quelque chose qui ne bouge pas, que comme des atouts pour maintenir, en quelque sorte, ce qu'il appelle l'être géographique de la France.
Les glissements gradués.
Glissements gradués, oui. C'est-à-dire que la France ne connaît pas les révolutions économiques ou techniques au même rythme que ses voisins, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne. Et en quelque sorte, la société française, rurale ou urbaine, les absorbe lentement.
Avec tout ce qui a changé, il y a un point qui me paraît durable, c'est la réflexion de Vidal de Lablache sur la régionalisation, sur la difficulté qu'a l'État central à se mêler du détail des décisions régionales et locales.
Oui, il y a chez Vidal, et notamment après la publication du tableau en 1903, toute une série de textes qui sont des textes où il met l'accent eh bien moins sur les permanences qu'il a vues dans ces dernières lignes du tableau que sur des transformations. Et donc ces transformations, elles sont liées en partie à la révolution des transports qui vont en quelque sorte sur ce territoire encore largement rural fixer des nœuds. Il parle de nodalité. Et ces opérations, elles sont faites moins par l'État que par des entreprises privées. On pourrait dire, il n'est pas colbertiste. Il ne croit pas que l'État peut transformer les choses radicalement. Il y a une chose qui est importante, c'est son passage à Nancy jusqu'en 77. Et à Nancy, Vidal a éprouvé ce que pouvaient être des entrepreneurs, des industriels, et que ces personnalités du monde économique avaient des initiatives qui étaient souvent plus porteuses d'avenir que celles de l'État.
Ce qui apparaît, dit-il, de plus en plus, ça c'est un texte de 1917 à la fin de sa vie, par la complication croissante des nécessités d'organisation industrielle et commerciale, c'est bien ce que vous dites, ce qui apparaît, c'est que l'État n'est pas en position de conduire à bonne fin jusque dans le détail nécessaire, ni avec la rapidité d'exécution qui s'impose, les entreprises auxquelles il a donné l'impulsion générale. Et il ajoute, et il me semble que là, nous ne sommes pas tellement loin de nos problématiques actuelles. Vidal de Lablache ajoute, il rencontre l'État, deux obstacles principaux, la rigidité administrative qui vient des bureaux et l'esprit de clocher qui vient d'ailleurs. Plus on va, plus se manifeste l'inaptitude de l'État à la souplesse de combinaison qu'exigent les mœurs économiques de notre époque. Ce qui ne conduit pas d'ailleurs notre homme à penser que l'État ne doit pas intervenir dans la vie publique. Simplement, il doit y avoir de la déconcentration et peut-être de la décentralisation.
Déconcentration, décentralisation. Et là, dans le tableau, il y a un passage qui est assez étonnant, c'est le passage sur le Jura, où il célèbre les communautés, disons, cantonales du Jura.
Qui sont un peu à l'origine du socialisme, voilà. Qui s'enracine dans Franche-Comté.
Il y a un modèle aussi, il fait un tableau en 1889 de la Suisse. Et pour lui, la Suisse est une sorte de... Cette confédération est un modèle de, on pourrait dire, de décentralisation. Le canton suisse, qui est plus important que le canton français, est un mode de gestion du territoire qui lui paraît très, très intéressant. La deuxième chose, c'est le voyage aux États-Unis de 1904. Il fait un voyage aux États-Unis dans le cadre d'un congrès et il voit un nouveau monde qui se construit sur la question évidemment des transports. Il voyage jusqu'au Grand Canyon du Colorado à Mexico, etc. Et à la fin de son carnet de voyage, il dit « Oui, c'est bien d'avoir une école d'Athènes, mais il nous faudrait une école d'Amérique ».
Donc c'est pas du tout, même s'il insiste sur les permanents, c'est pas du tout un conservateur acharné.
Et il essaye, il a une culture historique, etc. Il sait ce que c'est que les inerties, les permanences. Et puis aussi, il voit que ces inerties, elles peuvent être préjudiciables à ce qui l'intéresse. C'est ce qu'il appelle la France de demain dans ses carnets. Ou la France nouvelle, qui en quelque sorte tout s'arrêtera avec 1914, évidemment, ses espoirs de transformation. Mais c'est très vif chez lui entre 1905 et 1914, ces mutations, métamorphose de la France, mais transformation de la France.
S'il avait vécu 20 ans de plus, on peut se demander ce qu'il aurait pensé de la chanson Transition que je vous propose, Jean-Louis Tissier, et qui remonte, la tonalité ne trompe pas, qui remonte à 1941 sous Vichy, qui est un hommage à la France dans sa diversité. Ah, que la France est belle, interprété par Marcel Bordas. Les auteurs sont Gabaroche, Simoneau et Belle.
Des clochers, chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. J'habitais un coin du Midi au joli temps de mon enfance. Pour moi c'était le paradis, mais j'ai fait le tour de la France. Dans le train qui me transportait au milieu du doux paysage, je penchais mon joli visage et le cœur joyeux, je chantais. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants.
Alors, Vidal de la Blache est là, ou bien cette dérive de Vichy vous paraît contradictoire avec sa pensée?
Il faut bien voir que au tout début de la Révolution nationale, par exemple à l'école du Riage, il y a des travaux, les stagiaires réfléchissent à... pour retrouver la France.
L'école du Riage, c'est une école qui est au-dessus de Grenoble, dirigée par Dunoyer de Segonzac, où dans les premiers temps de l'occupation, il y a une réflexion sur un avenir possible.
Voilà. Et dans cette révolution nationale, évidemment, il y a le thème de la régionalisation. On mobilise, si on peut dire, Vidal, les textes de Vidal et les textes de ses élèves pour dire, l'école géographique française a réfléchi à ces questions. Ça rentre dans les débats même les débats qui sont après au Conseil national de Vichy sur la question de la régionalisation.
Il faut dire que Uriage est passé ensuite à la résistance avec des gens comme Beuve-Méry ou Dunoyer de Segonzac.
Et en fait, il y a une sorte, dans la Révolution nationale, il y a quelques échos, en quelque sorte, de cette tradition régionaliste, un peu ruraliste aussi de la France. Mais bon, c'est une sorte d'OPA sur Vidal qui est, ça se comprend. Ça se comprend, parce que ça donne une référence, on peut dire, scientifique à ce qui est jusque-là purement idéologique.
Et en même temps, on peut rappeler qu'un homme comme le général de Gaulle a été évidemment électeur de Vidal de Lablache comme de Lavis, et qu'il a été marqué par cette idée de la France à la fois très diverse et unie. Par une sorte de miracle étonnant, il suit dans ses mémoires l'idée de Vidal de Lablache qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que la France existait en tant que telle, et que il n'y a pas de l'idée des frontières naturelles. Non. N'est pas tellement présente. Cette idée qui avait été tellement fréquente au XIXe siècle.
La France est une construction politique, une construction culturelle aussi. Et quand on est à la boisserie...
Chez De Gaulle.
chez le général De Gaulle, et qu'on regarde par la ville, on dit, oui, c'est cette France-là, c'est aussi la France qui est la France du tableau, ces grands pays de l'Est, comme il dit, Vidal, ces forêts, ces grands plateaux, un peu solitaires. Eh bien oui, il y a quelque chose dans Vidal qui a dû toucher le général de Gaulle dans ce lieu-là, au moins.
Donc on ne peut pas faire de Vidal de Lablache une sorte de parrain des identitaires d'aujourd'hui qui voient la France comme une sorte de permanence qui serait fermée aux influences extérieures. Au contraire, il a beaucoup réfléchi à l'immigration, à l'arrivée du dehors et à cette constitution progressive, cet enrichissement progressif de la France, de ses populations par les apports du dehors.
Dans son ouvrage « État et nation de l'Europe autour de la France », c'est en quelque sorte un ouvrage qui, de géographie politique...
Quelle date ?
1889. Et en quelque sorte, où il montre comment la France, elle s'inscrit dans cette Europe, disons, des nations, et comment elle peut échanger avec ses voisins. Il est très attentif aussi quand il est dans les grands ports en France ou à l'étranger sur les courants migratoires. Il va repérer, par exemple, il y a une page magnifique dans ses carnets en Irlande, sur les quais de Cork. Ils savent qu'ils ne reverront plus leurs parents, etc. Ou à Anvers, etc. Donc il est en quelque sorte ouvert à une sorte des échanges de la France avec non seulement l'Europe, les voisins, mais le monde.
Après tout, il a très jeune fait un livre sur Marco Polo, c'est intéressant.
Oui, il a écrit un livre sur Marco Polo, qui est son premier ouvrage, qui est à la fois un livre d'histoire, mais aussi un livre dans lequel il fait appel aux explorations de l'Asie centrale des années 1850, 60, etc.
Les routes de la soie, on revient
aux routes de la soie.
Et alors, au Petit Prince, les explorateurs. Et les géographes, oui.
Et en fait, en 1897, il fait une magnifique carte de la route de la soie qu'il présente à l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Eh bien, nous allons l'offrir, on aurait pu l'offrir à Xi Jinping lors de sa visite toute récente à notre pays, visite officielle. Je voudrais vous faire entendre maintenant, Jean-Louis Tissier, un deuxième extrait du tableau de géographie de la France, de Vidal de Lablache, qui est au centre de notre conversation de ce matin. C'est une lecture de Jean Bollery dans l'émission « Lieux de mémoire » de Jean Dève sur France Culture, le 21 mars 1996. Vous allez voir qu'il y a toute une réflexion sur le rôle de l'eau. Très moderne d'ailleurs, parce que c'est aussi un pré-écologique, on peut dire ça sans forcer le trait. Nous allons le confirmer peut-être tout à l'heure, ou affirmer ce propos, nous allons voir. Il évoque les fleuves, très importants pour lui dans la constitution, dans la réalité française, et c'est toujours vrai.
Les hommes ne se guident pas, dans ces attributions hiérarchiques, par des considérations d'ingénieurs et d'hydrauliciens. Les eaux dont ils commémorent de préférence le souvenir sont, ou bien celles qui les ont guidés dans leur migration, ou plutôt encore, celles qui, par le mystère ou la beauté de leur source, ont frappé leur imagination. Telle est sans doute la raison qui a donné la primauté à la Seine. Elle est, non loin des passages, la première rivière permanente qui sorte d'une belle source, nourrie au réservoir souterrain du sol. Cette première Dwix, nom donné en Bourgogne aux sources jaillissantes de la Seine, est une surprise pour l'œil dans l'étroit repli des plateaux qui l'encaissent. Entre ces solitudes, elle est le seul élément de vie. Auprès d'elle se rangent moulins, villages, abbayes et forges, s'allongent de belles prairies. Les affluents lui manquent, il est vrai. Quelques-uns défaillent en route. Mais voici qu'au pied du roc de Châtillon, une Dwix magnifique vient encore subitement la réconforter. Lentement d'abord, comme un gonflement des eaux intérieures, elle sort, pure et profonde, de la vasque qui l'encadre. Puis, à travers les prairies et les arbres, s'accélère la scène. Comme pour lui communiquer la consécration divine que lui attribuait le culte naturaliste de nos aïeux. Paul Vidal de la Blache.
Nous parlions du style, Jean-Louis Tissier. Il écrit rudement bien, notre Vidal.
Oui, il écrit très bien. Et cette présentation, disons, des sources de la Seine, en quelque sorte, qui sont évidemment le fleuve qui passe à Paris, c'est quelque chose d'important.
Dwix, c'est quoi, rappelez-nous?
Dwix, c'est une source abondante, une sorte de résurgence, et d'un vieux terme d'origine gauloise.
Adopté, monsieur le géographe, par votre corporation?
Adopté par notre corporation. Comme beaucoup de les géographes adorent le vernaculaire, enfin c'est les géographes de cette génération. Alors ce texte montre à quel point dans ce tableau de la géographie de la France, il y a une dimension, on pourrait dire, aquatique, hydrologique, presque hydropoétique. En effet, le territoire est parcouru par ces grands fleuves, alors le Rhône, la Seine, la Garonne et surtout la Loire. Mais aussi, cette eau, elle est présente dans beaucoup de leurs affluents. Et en fait, Vidal est très sensible à ce lien qui est pas simplement le lien technique qu'on appelle un bassin versant en hydrologie, mais qui est en quelque sorte cette source qui irrigue, qui apporte de l'énergie, les moulins, et qui en quelque sorte fait de la France une sorte de ni trop froid, ces eaux sont pas glacées, ni sauf dans le midi méditerranéen, ni trop sec.
Le en juste fait, milieu, toujours.
L'eau est une forme de la tempérance de la France, au sens fort. Alors, dans ces fleuves, il y a évidemment, le plus important, c'est la Loire. C'est la Loire parce que c'est entre Seine et Loire que se construit le territoire. Et il y a un passage extraordinaire dans les carnets, voyage au pays des Capétiens, quand il est à Saint-Benoît-sur-Loire. Et en fait, là, en quelque sorte, il y a le lien entre, on pourrait dire, la route qui vient de la Seine, le coude de la Loire et cette route et puis ce fleuve qui allie en partie une partie de la France du Sud et une partie de la France du Nord dans son cours aval.
Voilà. Est notable que Vidal de la Blache est plus attiré par le Nord que par le Sud. Il dit la Méditerranée a éclairé nos origines, mais c'est dans le Nord que s'est formé l'État français.
Oui, et en fait, quand on regarde le tableau et on fait une pesée en nombre de pages, on voit très bien que la France du Nord est beaucoup mieux, disons, servie ou traitée, densément traitée, que la France du Midi et la France de l'Ouest. Et je pense que c'est une des choses qui est un peu, peut-être pas vieilli dans le tableau, mais il y a eu la France a été rééquilibrée. Si on parle de tout ce qui est l'émigration touristique, qui n'existait pas vraiment à l'époque de Vidal. Il allait de temps en temps à Yport, sur la Manche. Mais en fait, cette France, disons, plus périphérique, elle était beaucoup mieux intégrée à partir des années 50-60. Et je voudrais dire une chose, c'est que on parlait de Grac dans la conversation, mais dit mais vous savez ce qui a fait aussi la portée du tableau, c'est que entre 1914 et 1950, la France a peu bougé. C'est ce que j'appelle le temps où les maisons étaient grises. Et en fait, cette France, elle était encore dans le tableau de Vidal. Et c'est après que, disons, le tableau de Vidal a pu paraître un peu décalé par rapport à la réalité. Mais jusqu'en 1950, le bocage était là, les grandes plaines étaient là, les petites villes étaient là. Et cette France avait encore... La France vidalienne avait peu bougé. C'est après la guerre.
Vous insisteriez donc plutôt sur la discordance par rapport à 2019, où nous nous parlons, que sur la permanence. Il y a un point néanmoins, il y a un point qui est très important, c'est la réflexion sur Paris, la centralité.
La réflexion sur Paris.
Qu'est-ce qu'il en dit de Paris, la
Alors,
capitale ?
Paris, c'est curieux, c'est un grand absent quand même. Il parle de la centralisation et n'en parle que dans un article vraiment en 1910 de Paris.
Un article intitulé « Région française
oui, »,
justement.
Et il parle peu des transformations de Paris. Quand il parle d'osmanisation, c'est à propos de Francfort. Dans ses carnets, il parle pas de l'osmanisation de Paris, alors qu'il a été témoin de ces chantiers. Paris, c'est le lieu du pouvoir, c'est le lieu central, mais il estime que Paris n'a pas encore créé le désert français, comme dira Jean-François Gravier. Mais quand même.
Vous évoquez un livre de 1947, je crois.
Oui, 47.
De géographe, votre Gravier, confrère, qui a fait dont le titre a fait mouche, oui, plus encore que oui, le contenu, Paris oui, et le désert français. Voilà. Est-ce que Vidal de Lablache aurait pu dire cela? Je ne sais pas.
Non, je ne pense pas qu'il avait une conception. Même la France qui avait commencé son exode rural, il n'avait pas cette conception d'un désert. Je ne pense pas.
Ça le préoccupait néanmoins, puisqu'il écrivait, il écrivait Paris est un si gros personnage, ses appétits sont si exigeants, son attraction s'étend si loin qu'il est difficile de faire en lui la part de la fonction régionale. Comme chez ses pareils, où ses supérieurs en population, on distingue autour de Paris un plus grand Paris, le mot est actuel, hein, oui, une sorte d'auréole, l'enveloppe de cercles concentriques dont l'intensité va s'affaiblissant. Autour de l'enceinte, ajoute Vidal de Lablache, où s'entasse le gros de la population, s'étend un cercle plus vague, d'une trentaine de kilomètres à la ronde, qu'il parsème de la menue monnaie de ses maisons ou villas suburbaines. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment une permanence, un écho avec aujourd'hui.
Oui, oui, un écho avec aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il analyse le phénomène de la banlieue. Qui est en formation avant la guerre de 1914. Et puis, un peu plus loin, il parle aussi de ces villes qui sont à 100 kilomètres, 150 kilomètres.
Oui, il dit Orléans, Troyes, Reims voilà, semblent marquer les limites de l'ombre que Paris voilà, projette. Peut-être avec le chemin de fer, cette ombre serait-elle encore plus large aujourd'hui?
Oui, il est pré-TGV quand même. Mais oui, l'ombre, elle serait encore... étendue.
C'est avant les turboprofs oui, qui enseignent oui, dans ces universités qui oui, habitent à Paris. Est-ce que Vidal de Lablache aurait parlé de fracture sociale?
De fracture sociale, non, je pense pas. De fracture territoriale. Mais comme il construit son tableau, c'est un tableau en quelque sorte. C'est un moment, il le dit bien à propos de l'opposition Nord-Midi, où il n'y a pas de conscience d'une fracture territoriale.
Mais il y a une conscience, oui, il y a une idée d'isolement, l'idée qui
est... Alors, Vidal est très sensible à la notion qui est pour lui quelque chose, une anomalie ou un facteur de retard, qui est l'isolement et l'enclavement. Or, ce qu'on observe, disons, dans la conjoncture actuelle, c'est qu'il y a des parties du territoire qui sont dans l'enclavement. À certaines échelles, on observe en quelque sorte des anomalies, qui seraient pour Vidal des anomalies, des questions de territoire sous-équipé.
On parle de désert.
Ou sous-desservi. Sa grande idée, c'est quand même le territoire français, il tient, mais il peut se faire que certaines choses soient moins reliées à l'ensemble, plus distantes, ou pas simplement la distance kilométrique, mais aussi une distance de type équipement.
Et là, on retrouve un des ressorts incontestables du mouvement des Gilets jaunes.
Une partie des lignes ferroviaires qui sont fermées, ce sont les lignes ferroviaires dont il a profité pour faire ses voyages, c'est-à-dire le réseau Fraissinet. Et en quelque sorte, d'un seul coup, ces réseaux qui ont fonctionné pendant près de 60, 70 ans, eh bien, ce sont des lignes qu'on ferme. Et il y a des moments où, dans les carnets de Vidal, on peut plus faire ce voyage parce que la ligne est fermée. À propos de l'eau.
Mais revenons à l'eau.
Revenons à l'eau. Il y a une sensibilité écologique chez Vidal. Il parle ouvertement d'écologie. Il parle du fondateur de l'écologie, Haeckel, Ernst Haeckel l'Allemand, qui était un darwinien.
Il emploie l'expression écologie,
écologie notre il emploie même l'expression environnement, ou environnement, disent les Anglais. C'est-à-dire qu'il a une conception de ce qu'on appelle le milieu. Le milieu, qui est le milieu composé évidemment de l'air, de l'eau, du sol, et d'un milieu qui est en quelque sorte le milieu dans lequel se déploie, s'organise, qu'il appelle pour les hommes les genres de vie, les sociétés locales. Et en fait, il est très attentif à la manière dont ces genres de vie exploitent, utilisent la ressource. Alors, il ne parle pas de durabilité. Mais dans certaines descriptions de ces genres de vie, il y a une espèce d'appréciation d'une forme, disons, de sagesse. Et quand il est aux États-Unis, dans son carnet, il note que les Américains, c'est incroyable, ils coupent à ras les forêts pour faire des champs et c'est une sorte de prédation.
Pourtant, Trump n'était pas né.
Non, mais c'était l'époque, ce qu'on appelait, les Allemands appelaient l'économie de prédation, et cette espèce d'expansion brutale. Et qui tient pas compte des particularités locales du milieu. Il est à l'ouest du Mississippi. Quand il est dans son train, il dit mais c'est pas possible, c'est pratique. Disons qu'ils sont pas nos pratiques paysannes.
Donc c'est un domaine défense et illustration de la nature où les échos du passé peuvent finalement retrouver, sous la plume de Vidal de Lablache, un écho tout à fait contemporain. Pour clore cette émission, Jean-Louis Tissier, puisqu'elle est achevée, je suis content d'avoir montré cela. Merci beaucoup, Jean-Louis Tissier. Merci. Vous nous proposez, vous aussi, vous aimez profondément la France, vous nous proposez, je commence par là, un livre qui est paru en 2016 à La Martinière, en complicité avec le photographe Hervé Tardy, qui s'appelle « France, un voyage ». Je signale qu'il y a une biographie, je crois que c'est la seule, de Vidal de Lablache, un génie de la géographie qui est dû à André-Louis Sanguin, dans une collection chez Belin, un savant, une époque dirigée par Jean Dombre. Vous avez collaboré aussi au livre qui est dirigé par votre consoeur Marie-Claire Robic, et qui s'intitule « Le tableau de la géographie de la France » de Paul Vidal de Lablache dans « Le labyrinthe des formes », paru sous les auspices du Comité des travaux historiques et scientifiques en 2000. Quelle est l'ambition de ce livre ?
Ben c'est une relecture, un siècle après le tableau, une relecture du tableau, à l'aide évidemment des sources que l'on avait pu découvrir, et puis aussi, en quelque sorte, une réflexion sur les concepts de Vidal, ces concepts comme celui de région, celui de territoire, de nodalité, etc.
Jean-Yves Guillaumard a contribué au lieu de mémoire de Pierre Nora avec un chapitre sur le tableau de Vidal de Lablache. Et enfin, je signale le livre de Vincent Berdoulet, « La formation de l'école française de géographie 1870-1914 » aux éditions du CTHS, toujours en 2008. Et naturellement, Vidal de Lablache y tient une place majestueuse. Vous pourrez retrouver, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, une bibliographie complète sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, Vidal de Lablache et Saint-Exupéry. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la passion du jeu sous l'Ancien Régime. Vous avez sûrement observé, Jean-Louis Tissier, comme beaucoup, qu'il y a beaucoup de controverses actuellement autour de la Française des Jeux, comment l'État s'enrichit de cette passion collective. Et je recevrai pour en parler Elisabeth Belmas. Lundi prochain, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine à l'Algérie. L'actualité est assez patente. L'Algérie, naissance d'une nation.
Géographie, la rivière est dans son lit, la montagne est fière, fière d'être toujours la dernière à garder la neige en haut, la neige sur le dos.
Sur une chanson interprétée par Anne Sylvestre qui s'appelle précisément Géographie, une chanson de 1979, j'ai le plaisir de vous dire que vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Ludovic Auger, avec la discothèque Nathalie Rouvillain et avec Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Géographie, la rivière est dans son lit et les mers sont vagues, vagues, elle promène.
Et à présent, comme chaque samedi, je passe le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.
Géographie, la rivière est dans son lit, les villes sont grises, grises, l'une à l'autre, elles se disent, envoyez-moi vite un train, je le rendrai demain. Géographie, la rivière est dans son lit, tout est mis dans un grand livre, du doigt nous pouvons le suivre, notre monde est là-dedans, nous sommes ses enfants.